Voilà. Alors bonjour à tous déjà. Hein. En 2004, un jeune homme de 20 ans gagne le concours de la Star Academy. Concours de chant. Maintenant, c'est remplacé par The Voice, je pense. Ce jeune homme s'appelait Grégory Lemarchal. Ça a été pour lui la réalisation d'un rêve pour lequel il a tout donné. Il a fait beaucoup de travail, de sacrifices. Malheureusement, Grégory est atteint depuis sa naissance d'une maladie génétique incurable, la mucoviscidose. Je ne vais pas m'aventurer à expliquer ce que c'est parce que il y a une infirmière là à ma droite. Je préfère pas. Et vous avez peut-être regardé le téléfilm que on vient de réaliser et qui est passé mardi et qui va passer demain sur TF1. Donc le téléfilm qui retrace la courte vie de ce jeune homme doté d'une voix magnifique. Personnellement, je suis pas fan de ce genre de concours d'émissions, mais j'ai été ému par l'histoire de ce jeune homme. Et ce qui m'a intrigué, c'était le titre que l'on a donné à ce téléfilm biographique. Le titre qu'on lui a donné, c'est « Pourquoi je vis ?». Alors, comme je comprenais pas bien le lien avec Grégory, parce que je n'ai pas suivi ces émissions-là à l'époque, « Pourquoi je vis ?». Je me dis, mais tiens, quel est le lien avec ce chanteur? Et en fait, ce sont les premières paroles d'une chanson qu'interprétait Daniel Balavoine et qui s'intitule « SOS d'un terrien en détresse ». Et voici donc le début de cette chanson, les premières paroles. « Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. » Et cette chanson, donc Grégory a eu le courage de choisir cette chanson qui est très difficile à chanter, car on doit passer de notes très basses à des notes très hautes. Daniel Balavoine avait une tessiture extraordinaire. Et Grégory, enfin j'ai lu, je ne sais pas si... Si c'est vrai, mais il pouvait chanter sur 4 octaves. Je ne sais pas, peut-être dis-je, c'est possible. 4 octaves, c'est beaucoup. Et donc, il avait une voix extraordinaire parce que c'est pour chanter. Je vous assure que pour chanter cette chanson-là, c'est vraiment très 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 difficile parce qu'il faut aller de très bas à très très haut. Et il a donc épaté le jury avec cette chanson-là. Et donc il a gagné ce concours. Alors je ne veux pas analyser, faire l'exégèse des paroles d'une chanson qui appartient au monde, mais je trouve que ces paroles nous suscitent en nous une réflexion. Et j'aimerais voir avec vous comment la Bible répond à ce questionnement. Pourquoi je vis? Pourquoi en un mot, pas pour quoi? Pourquoi? Donc quelle est l'explication de la vie? D'où je viens? Comment ça se fait que je suis là? C'est une question que se posent beaucoup de personnes. Et moi-même, je me suis posé tant de fois cette question dans ma vie. J'ai cherché dans la science, dans la philosophie, des réponses. Mais rien ne me satisfaisait, rien n'apportait la paix dans mon cœur. Et même, bien souvent, la philosophie n'apporte pas beaucoup d'espoir, hein, puisque elle dit que la vie est absurde, qu'il n'y a absolument aucune raison d'être, que c'est le hasard qui fait que nous sommes là. Et voilà. Donc profitons de la vie, et puis après, ce sera fini. Alors, en 2006-2007, j'ai eu une période très difficile dans ma vie et j'ai redécouvert la Bible parce que je la lisais un petit peu avec mon père quand j'étais jeune, mais je ne la lisais pas avec foi. Mais j'ai redécouvert la Bible et donc, même si je n'ai pas toutes les explications, même si je n'ai pas toutes les réponses, eh bien, en tout cas, ce que la Bible me dit me satisfait et m'apporte la paix et l'espérance. Donc la Bible, elle donne des réponses, mais il faut la lire avec la foi. C'est par la foi et non seulement avec notre intelligence que nous pouvons être satisfaits de la réponse qui se trouve dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de science. Et nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 11. Au verset 3, chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, voilà déjà une réponse. Pourquoi je vis? C'est parce que c'est Dieu qui, par la parole, a créé toutes choses et qui a créé aussi la vie. Nous avons aussi, bien sûr, l'explication dans Genèse, au chapitre 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. Et dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc voilà pourquoi je vis. Pourquoi je vis? Parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu et je dirais plutôt qu'il l'a désiré. Donc Dieu ne s'est pas amusé à nous créer. À créer parce qu'il s'ennuyait. Non, mais il nous a créé, il nous a désiré. Et ça, c'est important. Vous imaginez quand on dit d'un enfant que il n'a pas été désiré, qu'on dit souvent, ah oh ouais, c'est un accident, parce que la mère a oublié de prendre sa pilule ou quoi. Vous imaginez. Le désarroi le trouble que doit causer ce genre de choses, eh bien, ce n'est pas notre cas. Nous avons été désirés, désirés et aimés. Pouvons lire dans le psaume 139, partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Voilà donc la réponse à pourquoi je vis. Pourquoi je vis? Parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a désiré. Pourquoi je meurs? Pourquoi je meurs? Eh bien, Dieu, quand il a créé le premier homme et la première femme, il les a installés dans un endroit paradisiaque. Ils n'avaient besoin de rien. Ils n'avaient juste qu'à faire confiance à Dieu. Et Dieu leur a dit, vous ne pouvez pas manger de ce fruit parce que le fruit de cet arbre, sinon vous mourrez. Mais malheureusement, vous savez, c'est comme les enfants, hein, vous leur dites, fais attention, ne t'approche pas du poêle parce que tu vas te brûler. Ben, ils vont quand même avancer leurs mains. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ils ne font pas confiance. Il faut que ils testent eux-mêmes. Et c'est ce que Adam et Ève ont voulu. Ils ont été tentés par Satan, mais en même temps, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et ils ont voulu expérimenter par eux-mêmes ce qui est le bien et le mal. Malheureusement, donc, Dieu leur avait dit, si tu manges de ce fruit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez certainement. Et donc, voilà encore la réponse que la Bible donne, pourquoi je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Les pleurs sont aussi la conséquence du péché, le péché qui est entré dans le monde avec la maladie, la souffrance. Les rires sont dus à la bénédiction de Dieu, aux bénédictions de Dieu, qui s'exercent même sur tous les hommes. Dans Matthieu 5, 45, on dit que Dieu fait lever le soleil et fait pleuvoir sur le juste ou le méchant ou l'injuste. Donc nous en Belgique, la pluie c'est une catastrophe, mais en fait quand Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur le bon ou sur le méchant, le juste et l'injuste, ça veut dire que eh bien il exerce sa grâce, sa bénédiction, même sur les hommes qui ne se soucient pas de lui. Et donc en Belgique, c'est vrai que nous quand il pleut, on est de mauvaise humeur, mais dans certains pays, quand il pleut, eh bien ils sont dans la joie, parce que la pluie c'est la vie, et l'absence de pluie c'est la sécheresse et c'est la mort. Pourquoi je pleure? Dieu permet des épreuves aussi dans notre vie pour nous fortifier, nous avertir, nous instruire, nous corriger. Voici un SOS d'un terrien en détresse. Dans cette période difficile de ma vie, dont je vous ai déjà parlé, moi aussi j'ai lancé un SOS vers Dieu. Et il m'a répondu. Et il y a un psaume, un verset dans le psaume 18 qui me rappelle cette période. Dans ma détresse, J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. J'ai lancé un SOS vers Dieu et il m'a répondu. Il m'a sauvé. Il a mis dans mon cœur une espérance nouvelle. Fini le doute, le questionnement. J'avais enfin trouvé pourquoi je vis. Quel était le sens de ma vie. Alors, en tant que chrétien, maintenant, on devrait se poser la question, pour qui je vis? Et Paul donne une réponse dans Galates, au chapitre 2. Du verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc voilà, Paul dit que il vit pour Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous vivre pour Christ? Eh bien, on pourrait faire tout un message rien que là-dessus. Mais je crois que principalement, c'est que Christ doit être au centre de nos pensées et de notre vie. Si nous aimons quelqu'un, par exemple, nous aimons bien sûr nos enfants, eh bien, nous sommes toujours préoccupés par nos enfants. Et c'est la même chose si nous aimons Christ, si nous voulons vivre pour Christ, eh bien, nous devons avoir continuellement nos pensées en lui, comme nous le pouvons le lire dans Philippiens 4 au verset 7, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, une autre question. Pour quoi faire? Donc, en deux mots cette fois-ci, pour quoi faire? Je vis pour Christ, mais pourquoi faire? Dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, nous lisons, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc nous sommes, pourquoi je vis, pour qui je vis, pour quoi faire, pour faire de bonnes œuvres. Alors quelles sont ces bonnes œuvres? Bien sûr, chacun dans sa vie peut faire des choses qui honorent le Seigneur. Et peut-être si vous ne savez pas comment, eh bien demandez au Seigneur dans vos prières, en quoi, Seigneur, puis-je être utile dans mon église, dans ma famille, dans mes contacts. Bien sûr, nous ne sommes pas tous destinés, appelés à être des évangélistes qui parcourent le monde, ou bien des missionnaires dans le fin fond de l'Afrique. Mais chacun de nous, dans notre vie, autour de nous, nous pouvons faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, nous n'avons pas de mérite, puisque ces œuvres, ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Alors, nous avons vu au début de ce message que Grégory Le Marchal a réalisé son rêve. Mais il n'a duré que 3 ans. 3 ans de succès. C'est une bien triste histoire. Il a gagné la Star Academy, mais il a perdu son combat contre la maladie. Je compatis, bien sûr, à la douleur des parents, mais malheureusement, le monde ne peut nous donner que des bonheurs éphémères. Ici, c'était vraiment très court, 3 ans. Certains, comme Johnny Hallyday, ont duré pratiquement 50 ans, je ne sais plus. Mais un jour, ça s'arrête. Un jour, ça s'arrête. Le bonheur que le monde peut nous donner a toujours une fin. Alors que Dieu nous propose un autre rêve. Ça me rappelle le chant « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur ». Dieu a mis un autre rêve dans notre cœur. Il nous propose un bonheur éternel auprès de lui. Et si nous sommes sûrs que ce rêve va se réaliser, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons le réaliser, mais c'est Dieu qui va le réaliser. Dieu ne tient pas compte de nos talents, de notre intelligence, si on a une belle voix avec 4 octaves, qu'on soit grand ou petit. Il nous prend tel que nous sommes. La condition, c'est, comme nous l'avons dit, c'est que rien d'impur ne pouvait entrer dans le ciel, dans le ciel de Dieu. Alors, la condition, c'est la repentance. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, mais il nous demande de reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Alors, quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, eh bien, nous tournons vers Dieu et nous lui demandons, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur répond, bien, j'ai donné mon fils Jésus pour prendre tes péchés. Et donc, maintenant, tu es sauvé, tu as l'accès à ma maison. Si vous êtes un chrétien en détresse, lancez un SOS vers Dieu et il agira afin de vous ramener, de ramener la paix dans votre cœur. Si vous êtes un chrétien en détresse, ne lancez pas un SOS vers n'importe qui, n'importe quoi, mais comme nous l'avons chanté tout à l'heure, notre secours est en lui. Ne cherchons pas autre part. Si vous êtes un terrien en détresse, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, et que vous ne savez pas pourquoi je vis, pourquoi je meurs, eh bien, lancez un SOS vers notre Dieu, et Dieu vous amènera à la vérité, à la repentance et à l'espérance. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier parce que moi aussi je me posais tellement de questions au sujet de la vie, de la mort, du sens de la vie. Et je n'obtenais que des réponses désespérantes. Et Seigneur, tu t'es révélé à moi et tu m'as éclairé, Seigneur. Tu as mis une espérance nouvelle dans mon cœur. Seigneur, merci d'avoir eu pitié de moi, Seigneur. Seigneur, quand je suis dans la détresse, que je ne me dirige pas vers d'autres choses que, ou d'autres personnes que la tienne, Seigneur. Que je puisse me confier à toi. Mon secours est en toi, Seigneur, en toi seulement. Seigneur, je veux te remercier pour toutes ces réponses qui se trouvent dans ta parole, Seigneur. Ces réponses qui nous donnent de l'espoir, Seigneur, et qui nous réjouissent. Seigneur, je veux te remercier parce que tu as donné ton Fils pour que nous puissions avoir accès aux portes du ciel. Amen.